D'accueillir chacun. C'est la deuxième fois pour moi d'être présent à ce réseau enseignant. Et comme l'a rappelé Margarita ce matin, le réseau enseignant, comme d'ailleurs chaque réseau, a pour vocation d'aider les praticiens, ceux qui sont, je dirais, professionnels du réseau, à articuler à la fois leurs compétences professionnelles et leur foi. Et donc, à ce titre, effectivement, en préparant la journée, il nous a paru intéressant de nous tourner vers, d'une part, la Bible, bien évidemment, dans le cas des GBU, on ne peut pas faire autrement, mais plus particulièrement vers l'enseignement de Jésus, et d'essayer de tracer quelques lignes par rapport aux finalités de Jésus à ses disciples dans le cadre de son enseignement. Alors, je pense que vous êtes habitués à lire la Bible, à côtoyer le texte biblique, et ce thème est naturellement un thème très, très vaste, surtout que je pense qu'il est difficile de comprendre le terme enseignement, quand on parle en tout cas des évangiles, en particulier de Jésus, au sens strict du terme. Pour moi, l'enseignement, dans le cadre justement de la transmission de Jésus à ses disciples, ça implique l'ensemble de la vie de Jésus, c'est sans doute ce qui est intéressant. Alors, étant donné le champ qui est assez large, et puis le peu de temps que l'on a, je me limiterai à sélectionner quelques caractéristiques de Jésus dans cette transmission, dans un sens assez large, hein, au sens du terme enseignement, et puis j'en tirerai quelques finalités. Donc, mon propos ne sera pas exhaustif. Sans doute que lors du débat qui suivra, après les deux exposés, vous aurez, et j'espère d'ailleurs, d'autres finalités à pouvoir partager, proposer. Comme on l'a dit, c'est une journée qui se veut aussi participative. Et l'idée, en tout cas pour moi, c'est pas de donner voilà un conduit tout ficelé, mais de vous, au contraire, suggérer quelques pistes qui peut-être vous stimulera dans votre propre réflexion et vous aidera à aller plus loin et en trouver d'autres. Alors, d'abord, il faut rappeler que l'enseignement de Jésus ne concerne pas dans les évangiles que les disciples. Ici, c'est un peu restrictif et c'est, je dirais, heureusement qu'on réduit un peu le sujet. Mais bien évidemment, quand on lit les évangiles, c'est important de le dire au départ, l'enseignement de Jésus s'adresse aux foules. Mais aussi à des individus qui ne sont pas forcément d'ailleurs des disciples. On peut penser à l'entretien que Jésus va avoir avec Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3, puis au chapitre 4 avec la Samaritaine. Il va s'adresser aussi à des groupes plus réduits parmi les disciples, hein, le groupe des trois. On sait que Jésus s'adresse à tous, il s'adresse, je dirais, aux petits et aux grands. On connaît bien ce moment où les disciples empêchent Jésus de s'adresser aux enfants, qui étaient assez peu considérés à l'époque. Jésus les prend sur lui, les bénit, etc. Il va s'adresser, pour la plupart du temps, naturellement, aux juifs, puisqu'il se limite. Mais il s'adresse aussi aux non-juifs. On peut penser à la Syrophénicienne, puis aussi à d'autres personnes. Cela étant dit, Jésus va avoir un enseignement beaucoup plus spécifique à donner aux douze, donc à ses disciples, et comme je le disais, en particulier à trois d'entre eux. Alors, parmi les caractéristiques dont je vais simplement mentionner quelques-unes et puis essayer de voir quelles pourraient être les finalités en rapport avec ces caractéristiques, on peut noter que l'enseignement de Jésus ne laisse personne indifférent. Alors, il faut dire que Jésus n'enseigne pas comme les autres enseignants de son temps, les scribes notamment de son temps. Les scribes et les pharisiens avaient pour habitude, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise habitude, mais de décortiquer la loi, et ils se présentent comme des experts. Leur érudition ne vise pas à changer le cœur, c'est-à-dire l'intérieur de la personne. Et c'est d'ailleurs le principal reproche que Jésus va leur faire, notamment dans ce fameux discours sermon, on l'appelle comme ça, sur la montagne, donc au début du chapitre, au début de l'évangile de Jean, où Jésus a des mots très, très dure hein, à leur encontre. Il va même jusqu'à les traiter d'hypocrites parce qu'ils cherchent à être vus des hommes quand ils prient sur les places publiques. Donc on voit bien que ce qui compte pour eux, c'est plutôt l'extérieur, l'apparence. Alors que l'enseignement de Jésus vise au contraire un changement intérieur. Dit autrement, Jésus ne cherche pas à former des têtes bien pleines, il cherche à transformer des cœurs afin que ceux qui le suivent soient sauvés et puissent, je dirais, de ce fait, de par le fait qu'ils ont une relation personnelle réconciliée avec Dieu en Jésus-Christ, puissent penser, agir et se comporter avec sagesse, c'est-à-dire avec discernement. Alors, il faut sans doute dire ici que, dans le contexte biblique, la connaissance n'est jamais théorique dans la Bible. Elle n'est jamais abstraite, elle est toujours concrète. C'est-à-dire que la connaissance, le mot même connaît, d'ailleurs, s'inscrit toujours dans le cadre d'une relation. Au sens large, on va dire que c'est connaître, c'est d'abord la relation à Dieu, connaître Dieu d'abord dans le contexte biblique, et puis connaître aussi son prochain. Et c'est vraiment dans le contexte de cette relation, je le dis en début, mais j'y reviendrai à la fin, que, je dirais, se positionne l'enseignement. On le voit d'ailleurs, on peut avoir des exemples qui nous viennent à l'esprit dans les relations de Jésus avec ses disciples, par exemple avec Pierre, dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, donc c'est après la résurrection, où il y a ce récit, j'y reviendrai, où Jésus pose la question à Pierre, « M'aimes-tu ?» Donc ça c'est la relation à Dieu. Et puis par la suite, il lui dit « Prends soin de mes brebis », donc ça c'est la relation aux autres. D'ailleurs, puisque on cite ici, je cite Pierre, Pierre, me semble-t-il, illustre particulièrement bien cette finalité que je viens d'évoquer de Jésus, du changement intérieur. Les évangiles, et je pense que Pierre est une figure qu'on connaît assez bien dans les évangiles nous présentent Pierre comme un homme, un disciple fougueux, assez souvent imprévisible. C'est lui qui va couper l'oreille de Malchus, hein, celui qui est avec le grand prêtre, le serviteur du grand prêtre au moment de l'arrestation de Jésus. Alors que dans les Épîtres, on découvre un tout autre personnage, un apôtre rempli de patience, de discernement et de sagesse. Donc on voit ici, je dirais, l'illustration, la finalité finalement, hein, qui s'est vraiment incarnée en la personne du disciple le plus en vue du groupe des douze. Une autre caractéristique que je voulais mentionner, c'est l'autorité. Et les textes bibliques d'ailleurs le mentionnent très clairement, Jésus enseigne avec autorité. Pourquoi ? Parce qu'il est le Fils de Dieu qui vient accomplir la loi de Moïse et le salut des hommes. Jésus le dit d'ailleurs dans le sermon sur la montagne, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus n'est ni dans l'annonce messianique des prophètes de l'Ancien Testament ou même de Jean-Baptiste, ni dans la proclamation, comme le seront par la suite les apôtres, mais Jésus est dans l'accomplissement. Et c'est en cela que, naturellement, son enseignement est différent, et c'est pour ça qu'on ne peut pas trop ne retenir qu'un aspect de son enseignement, mais sans doute toute sa personne. Les prophètes vont annoncer la venue du Messie, du salut, et donc la venue de Jésus. Les apôtres vont naturellement proclamer sa venue, et puis ils vont en expliquer le sens, en tout cas ils vont expliquer le sens de sa venue par rapport au salut. Jésus, quant à lui, eh bien, il révèle, il est dans la révélation, il révèle ce salut en l'accomplissant. C'est ce qui donne autorité, une autorité particulière à son enseignement. Pour autant, Jésus exerce son autorité, et c'est très marqué dans les évangiles, dans un esprit de service. C'est particulièrement net quand, peu avant de mourir, au moment du repas pascal, Jésus va se mettre à laver les pieds de ses disciples, une tâche réservée à l'époque, dans l'Antiquité, à l'esclave. Et on sait comment Pierre s'émeut et fait plus que s'émouvoir. D'ailleurs, il n'accepte pas ce geste de Jésus. « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Parce que c'est une tâche qui est réservée à l'esclave. Mais il me semble que Jésus vise ici l'exemplarité dans l'exercice humble de son autorité. Je viens de vous donner un exemple, dit-il, pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. On voit ici que Jésus valorise les notions de service et d'humilité dans un contexte culturel qui dévalorisait fortement ces notions, puisque ces notions définissaient la condition même de l'esclave. Ailleurs, Jésus dira, toujours en s'adressant aux douze, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Autre caractéristique du ministère de Jésus, c'est que Jésus s'adresse à la personne dans sa totalité. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que sa démarche, un mot assez courant aujourd'hui, est holistique. Jésus s'adresse à l'intelligence par son enseignement, mais aussi à l'âme, à la conscience, puisque, comme je viens de le dire, son enseignement vise à transformer l'intérieur, le cœur. Et le cœur, dans la Bible, c'est le tréfonds de l'être humain. Mais, on le sait, son ministère, et je crois qu'on ne peut pas là aussi déconnecter son enseignement de cette autre partie, va aussi prendre en considération le corps, puisque Jésus va aussi faire des miracles. Tout cela pour dire que Jésus montre que le salut qu'il apporte concerne la personne dans sa totalité, corps, âme et esprit. Par conséquent, celui qui s'engage à sa suite doit le faire totalement, et pas seulement à moitié ou en partie. Il me semble que Jésus vise ici, dans son enseignement, un engagement intégral, total. Et cet engagement se manifeste dès le moment même où Jésus appelle ses disciples à le suivre comme pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire que la finalité, ici, c'est qu'ils deviennent acteurs du royaume, hein, pêcheurs. Pêcheurs, ils étaient pêcheurs de métier, c'est leur activité, hein, mais pêcheurs d'hommes, et non pas spectateurs. Ce qu'ils, d'ailleurs, vont devenir, effectivement, par la suite, en tant qu'apôtres. On peut noter ici aussi qu'à la différence des rabbis, hein, des maîtres de son temps, Jésus, lui, choisit ses disciples. Et quand Jésus appelle Jacques et Jean à le suivre, à la suite de Pierre et d'André, qui étaient en train de pêcher, de pratiquer leur activité, l'évangéliste Matthieu nous dit qu'aussitôt, ils quittèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Donc on voit ici que l'engagement des disciples n'est pas un engagement superficiel. Ce n'est pas un engagement, je dirais, qui est fait à moitié, mais véritablement un engagement total. Ils quittent leur travail, leur famille, pour suivre Jésus. Ailleurs, Jésus dira, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je ne vais pas commenter ce verset qui donne lieu à parfois des interprétations un peu erronées, mais simplement, en tant que tel, ce verset montre, l'intégralité de l'engagement à la suite du Christ. Autre caractéristique de Jésus, c'est que c'est un homme patient dans son enseignement et persévérant. C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas celui qui est lent à croire. Au contraire, il va le rejoindre jusque dans son incrédulité, et même si c'est un, et peut-être même surtout parce que c'est un disciple. Alors c'est particulièrement net après la résurrection, quand Jésus rejoint les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ou quand il va rejoindre Thomas dans son incrédulité pour se révéler à lui en lui montrant ses plaies, hein, ses mains et son côté. À ce moment, au moment où Jésus rejoint, donc après la résurrection, au moment où il rejoint les disciples sur le chemin d'Emmaüs, où il rejoint Thomas, il me semble que ce que Jésus cherche à faire surtout, c'est à rassembler. En effet, les disciples qui s'en allaient vers Emmaüs vont retourner immédiatement avec les rejoindre les autres disciples qui se retrouvent à Jérusalem. Quant à Thomas, il va confesser Jésus comme son Seigneur et son Dieu, et il va de ce fait réintégrer le groupe des disciples qui s'étaient dispersés, disloqués après la mort de Jésus. L'enseignement de Jésus auprès des disciples dispersés après sa mort vise à créer une communauté fondée sur une relation, donc vous retrouvez ici le terme relation, relation vivante et personnelle avec lui, c'est-à-dire sur une confession de foi qu'il est bien le Messie, le Fils de Dieu. C'est la confession notamment de Thomas, hein, tu es mon Seigneur et mon Dieu, avec cette dimension à la fois personnelle et puis cette reconnaissance que Jésus est bien le Fils de Dieu. Alors cette finalité n'apparaît pas que là, hein. Elle apparaît déjà avant même sa mort, notamment dans sa prière dite sacerdotale, dans Jean 17, où avant de mourir, Jésus prie pour l'unité. « Je te demande, dit-il, qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Alors vous me direz peut-être que je m'égare un peu par rapport au sujet, hein, qui voilà, parle de l'enseignement. Ici, on n'était pas directement dans l'enseignement, c'est pourquoi j'ai pris la précaution de dire au départ que je voulais que mon propos soit un peu large. Mais il me semble qu'en même temps, c'est une autre caractéristique de la vie de Jésus. Jésus accompagne souvent son enseignement de la prière. Et il me semble qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est pour ça que j'ai fait ce choix de parler un peu de l'ensemble de la vie de Jésus. Ça attire, ça accroche le regard, ça attire l'attention des disciples que de voir le Maître, Jésus, se retirer, passer du temps, voire même parfois des nuits entières, en prière. Et ça intrigue à tel point que un jour, un disciple finit par demander à Jésus de lui apprendre à prier. Et c'est à ce moment-là que Jésus va aussi enseigner finalement, hein. Mais au lieu de donner un discours ou un enseignement un peu ex cathedra, il va enseigner dans la pratique. Il va enseigner la prière dite du Notre Père. Sa vie de prière et son enseignement sur la prière visent, me semble-t-il ici, la dépendance. Pas le temps de faire une étude du Notre Père, mais c'est véritablement au cœur même de la prière, c'est-à-dire la confiance en celui qui peut tout. Alors, à la différence de l'apprentissage à l'école, où on apprend à développer l'autonomie, moi je suis père de 4 enfants, et puis pour l'un ou l'autre d'entre eux, en particulièrement un, surtout quand ils étaient à l'école primaire, hein, quand on a été invité à parler avec les enseignants, mais alors, il a du mal avec l'autonomie, il n'est pas suffisamment dans l'autonomie. Et c'est sûr que c'est important, parce que pour devenir adulte, il faut pouvoir être justement autonome. Alors qu'ici, on développe la dépendance à Dieu, l'intimité avec Dieu, car c'est cette intimité, je dirais cette relation poussée, qui va permettre la maturité chrétienne. Plus dans ma foi je dépends de Dieu, plus eh bien, je me fortifie dans la foi. On sait que l'enseignement de Jésus sur la prière est un enseignement large. Il va notamment enseigner à ses disciples à prier avec foi. Une caractéristique alors très, je dirais, en phase avec votre profession. Jésus est très pédagogique dans son enseignement. J'aimerais peut-être un peu développer ce propos. Je mets entre parenthèses les paraboles, parce que c'est sans doute ce qui vient le premier exemple qui nous vient à l'esprit. Jésus est pédagogique parce qu'il est proche de ceux à qui il enseigne. Il utilise les images de la vie courante, la vigne, le troupeau, le berger, la parabole sur la brebis égarée, etc. Enfin, il y en a beaucoup qui nous viennent à l'esprit et toutes ces paraboles, je dirais, puisent leur matériaux dans la vie de tous les jours. Et cette forme d'enseignement interpelle les auditeurs, elle bouscule leur vision du monde et leurs valeurs habituelles. Cet enseignement par parabole utilise le langage de l'ordinaire pour dire l'extraordinaire de la proximité du royaume. C'est un enseignement qui revêt aussi une dimension paradoxale, car il révèle la nature même du royaume de Dieu tout en cachant le sens profond. Mais pas pour les disciples. dans les évangiles, les douze interrogent Jésus sur ces paraboles et Jésus leur en donne l'explication. Et en faisant cela, Jésus leur donne les clés de compréhension du royaume de Dieu. Il y a, me semble-t-il, dans l'enseignement de Jésus à ses disciples, une tension d'apprentissage en vue d'un dévoilement ultérieur. On retrouve cette tension dans le déroulement même des événements du salut. En effet, par son enseignement, Jésus prépare ses disciples à sa mort et à sa résurrection, mais quand on lit les évangiles, on a bien conscience que ça n'est qu'après sa mort et au moment où ses disciples sont témoins de la résurrection qu'ils vont vraiment comprendre. Et je dirais même à ce moment-là, ça ne leur saute pas aux yeux. Relisez notamment le chapitre 20 de l'évangile de Jean, j'ai eu l'occasion d'intervenir récemment là-dessus à Interfac, et c'est bien mentionné qu'ils n'avaient pas compris jusqu'à ce qu'il y ait cette révélation de la résurrection. La méthode pédagogique de Jésus passe aussi parfois par l'échec. On pourrait presque dire le droit à l'erreur. Alors, plusieurs exemples moi, me sont venus à l'esprit. On peut penser à ce moment où Jésus, après cet épisode de la transfiguration, descend de la montagne et puis rencontre les disciples qui n'ont pas été capables, qui n'ont pas pu délivrer ou guérir un enfant, dans Luc 9, notamment à partir du verset 37. Ou à cet autre moment, un peu plus tardif, dans le jardin de Gethsémané, où les disciples, et ce n'est pas n'importe lesquels, c'est les trois disciples qui l'ont suivi partout n'ont pas été capables, là aussi, de persévérer dans la prière avec Jésus. Ils se sont endormis. Ou à Pierre, un peu après cet épisode, récit encore plus connu, qui va renier son maître, alors que celui-ci lui avait annoncé justement qu'il allait le faire, et qu'à ce moment, au moment où Jésus avait annoncé à Pierre qu'il allait le renier, Pierre s'en était défendu. On sait d'ailleurs comment Pierre, le texte insiste là-dessus, a pleuré amèrement. Et ce brisement intérieur l'a conduit effectivement plus loin. Donc, ce que Jésus cherche à faire ici, ce n'est pas à culpabiliser. Quand je parle ici de la pédagogie, on pourrait parler de l'échec, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais Jésus cherche à faire progresser ses disciples dans la foi, et ce progrès passe par une plus grande connaissance de soi, de ses limites, voire de ses incapacités à y arriver par soi-même. Et c'est parfois en connaissant, et même souvent en connaissant ses limites, qu'on peut mieux, je dirais, agir et aller de l'avant. Donc son enseignement devient, me semble-t-il, ici un lieu d'apprentissage, en raison d'une pédagogie particulièrement bien adaptée. Les disciples apprennent en cherchant. Ils posent des questions. Ils apprennent en découvrant. Jésus va leur donner l'explication. Et puis ils vont être les témoins de, je dirais, ce déroulement de l'histoire du salut. Ils vont aussi apprendre par leurs échecs, par leurs erreurs, avec ce droit à l'erreur. Jésus est surtout personnel dans son enseignement. De ce fait, il cherche à insérer son enseignement dans un vécu relationnel. Et je reviens toujours à cette dimension, parce que je crois qu'elle est inscrite dans la notion même d'alliance, que l'on retrouve d'ailleurs dès le tout début du livre de la Genèse, c'est-à-dire cette alliance que Dieu va faire avec l'homme, et qui dit alliance dit relation, dit contrat. C'est particulièrement vrai avec les disciples, les douze, qui sont entraînés dès leur appel dans une vie communautaire avec Jésus. Et cette dimension de communauté enseignante, on pourrait l'appeler ainsi, participe pour beaucoup à l'apprentissage de la vie du disciple. La communauté des douze est diversifiée. C'est vrai que beaucoup sont des pêcheurs de poissons. C'est leur activité première, mais pas tous. Hein. Matthieu, autrement nommé Lévi, est collecteur d'impôts. Et l'enseignement, c'est-à-dire mais plutôt dans la manière d'enseigner de Jésus à ses disciples, sera aussi très diversifié. Parfois, Jésus va enseigner à partir de discours. Je faisais allusion tout à l'heure au récit à l'entretien plus exactement de Jésus avec la Samaritaine dans Jean 4. Au moment où les disciples entrent en scène, on pourrait dire, puisqu'ils étaient partis dans le village, au moment où ils reviennent, eh bien là, il n'y a pas un dialogue, il y a un monologue. Jésus va va en quelque sorte, on pourrait presque dire, sermonner les disciples, et il va leur parler sans que eux n'interviennent. À d'autres endroits, il va y avoir au contraire un enseignement qui va passer par l'entretien, même un entretien intime. On pense à ce moment dans la chambre haute, Jean 14, 15 et 16, où Jésus va s'entretenir avec les disciples, qui posent des questions, et il y a effectivement une relation étroite qui se tisse entre eux. Il va y avoir aussi des échanges plus personnalisés avec certains des disciples en particulier. Mentionné tout à l'heure Pierre dans Jean 21, où il va se retirer à l'écart, il va parler avec lui, ou avec les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui le suivent dans des missions spéciales, des missions où ils sont les seuls à être témoins et présents. Bref, son enseignement s'inscrit le plus souvent dans un espace d'échange, de dialogue, où les disciples font part à Jésus de leurs interrogations, mais parfois même de leur désapprobation. On peut penser en particulier à Pierre, encore une fois, qui reprend Jésus, certes en privé, quand Jésus lui annonce aux disciples sa mort. Hein. Et on sait comment Jésus va en quelque sorte le recadrer à ce moment-là. D'ailleurs, il me semble, alors je parle sous le contrôle de spécialistes dans la salle, que le mot grec katekein, qui a donné le mot catéchisme, je pense, hein, signifie faire résonner, parler dans l'attente d'un écho, d'une réponse. Autrement dit, ce terme qui signifie enseigner, enfin qui est traduit par enseigner, invite au dialogue, invite à l'échange. Jésus met ses disciples aussi en situation d'apprentissage sur le terrain. C'est le cas quand il invite trois d'entre eux, en particulier, donc Pierre, Jacques et Jean, à l'accompagner dans ses missions, on va dire, rapprochées, mais de manière générale aussi quand il les envoie, quand il envoie les 12 en mission, Matthieu 10, hein, à partir du verset 5. Autrement dit, son enseignement n'est jamais strictement théorique, mais aussi pratique. Il n'y a pas d'un côté, me semble-t-il, le savoir abstrait, et de l'autre, la mise en pratique. Par sa manière d'enseigner, Jésus associe étroitement l'un et l'autre. Et en ce sens, il me semble que Jésus vise, c'est une autre finalité de son enseignement, à responsabiliser ses disciples. Il leur lance des défis. Les envoyer comme ça en mission, c'était pas évident. Il leur lance des défis, il les met en situation d'agir. Jésus nourrit le lien entre le savoir par son enseignement, parlé et vécu, le faire par la mise en pratique et les valeurs par son exemple. Et son exemple, sa vie, est en soi un enseignement. Et enfin, dernière caractéristique que j'aimerais ici mentionner avant de conclure, Jésus encourage. En Jean 21, je reviens sur ce chapitre, Jésus va relever son disciple, donc Pierre, qui, après son triple reniement. Et naturellement, en lui posant par trois fois la même question, « M'aimes-tu ?», Jésus touche là où ça fait mal. Car pour Pierre, cette triple question, enfin cette question répétée trois fois, c'est un douloureux rappel de son triple reniement. Mais à chaque fois, Jésus confie à son disciple la mission de prendre soin de ses brebis. C'est-à-dire qu'il cherche à le réhabiliter. Jésus vise toujours l'édification de ses disciples, jamais il ne cherche à les rabaisser. Et pourtant, il s'agit, je dirais, de Jésus, du Fils de Dieu, de celui qui sait tout. Et on sait combien il est en prise avec des hommes et des femmes qui sont empêtrés, comme nous, dans nos contradictions, dans nos inconséquences bien souvent. Alors, que retenir de ce rapide parcours sur les finalités de l'enseignement de Jésus à ses disciples ? En voyant un peu l'ensemble, il me semble qu'il y a des éléments qui peuvent être effectivement retenus. L'importance de la relation, de la communauté, de la confiance, de la prise de responsabilité, de l'engagement, de l'exemplarité et de l'encouragement, entre autres. Et au centre de ces finalités Il y a la valorisation, pas tant de l'individu, me semble-t-il, avec ses compétences techniques, mais plutôt de la personne qui s'engage, se responsabilise, encourage. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus, forme techniquement ses disciples sur la manière de prêcher, sur l'apologétique. Hein. Mais ce n'est pas ce qu'on voit quand on lit les évangiles. Et c'est aussi intéressant de noter, puisque je faisais la distinction entre individu et personne, que le concept même de personne est un concept qui a été élaboré dans le cadre de la foi chrétienne. C'est un concept qui a été, mis en évidence dans le cadre des premiers siècles de l'Église, quand il a fallu justement définir la Trinité avec les trois personnes, et sans doute qu'il y aurait là, matière à débat et à réflexion. Mais il me semble qu'il y a aussi dans ces éléments que je viens de mentionner, la valorisation de la relation à l'autre, ce lien qui fonde la vie en société, ce lien qui a été brisé par le péché. C'est le grand drame du chapitre 3 de la Genèse, et qui est restauré en Jésus-Christ par la réconciliation avec Dieu, avec son prochain, avec soi-même également. Alors cherchons à valoriser autant que faire se peut ces finalités en les incarnant déjà dans notre propre vie. Si nous les avons intériorisées, puisque je pense que si on est ici, c'est parce que la finalité de l'enseignement de Jésus a fait mouche chez nous et que ça nous a transformés dans notre être intérieur. Si nous les avons intériorisées, c'est sans doute pour pouvoir, en témoigner, même dans un contexte laïque. Ne cherchons pas à mettre la lampe sous le boisseau, mais dans le respect de la laïcité. Comment ? Trois mots, me semble-t-il, ici pour conclure. Ben d'abord en priant. Vous allez me dire, on n'a pas le droit de prier à l'école. Oui, mais on peut prier chez soi. Jésus se retirait pour prier. En priant pour ses élèves, en priant pour les collègues, pour les parents. Ma fille qui commence là, cette année, elle est en stage en première année. Elle découvre un monde finalement avec non seulement ses élèves, elle est en maternelle, mais aussi les parents qui parfois sont des gros problèmes. Et c'est l'occasion de prier aussi pour l'enfant qui remue sa classe et qui met toute sa classe, sans dessus-dessous. Parce que parfois elle est revenue un peu découragée, en priant, en aimant les élèves dont on a la charge, comme Jésus nous a aimés. Aimer son prochain, c'est aussi aimer ceux avec qui on travaille tous les jours. Cela nécessite de soigner les relations avec les élèves, les parents, les collègues également. Et puis, en encourageant, comme Jésus l'a fait, car il me semble que c'est sans doute la meilleure manière de transmettre. Voilà, merci pour votre attention.